Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Depuis plusieurs émissions, nous nous demandons quelle est la place du chrétien dans la société et quelle influence peut-il y exercer?
Nous allons aborder ces thèmes avec l'aide de notre invité Robert. Nous sommes heureux de l'accueillir parmi nous. Bonjour Robert. Quel thème allons-nous aborder aujourd'hui?
Bonjour Yann et bonjour à tous. Je voudrais encourager les chrétiens et les églises à remplir au sein de la société un rôle de bâtisseur de paix. Jésus nous exhorte de la sorte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 9.
Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils.
La bonne nouvelle de Jésus-Christ est porteuse d'un message de paix. D'abord, un message invitant les hommes et les femmes à se réconcilier avec Dieu. Car à cause de notre désobéissance et de notre péché, nous sommes en conflit avec le Seigneur. La relation entre l'Éternel et les hommes s'est rompue. Cependant, Dieu, dans sa grâce, a établi un plan pour faire germer à nouveau la paix dans les cœurs. Pour cela, il a envoyé Jésus-Christ dans le monde et il a payé le prix de nos fautes sur la croix. Ainsi, l'Éternel peut nous pardonner nos transgressions et nous pouvons nous réconcilier avec lui. Ensuite, cette bonne nouvelle, ce message de paix qui touche d'abord notre relation avec Dieu, doit aussi influencer les relations entre les hommes. Elle doit améliorer les contacts qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Au sein de l'Église, les chrétiens sont appelés à vivre en paix avec leurs frères et sœurs. Nous venons tous d'arrière-plans très différents, mais nous sommes unis en Christ et nous devons vivre cette unité. Ainsi, dans l'Église, nous trouvons des personnes de race, de nationalité et de tribus différentes. Nous rencontrons de même des riches et des pauvres, des hommes et des femmes, des personnes âgées et des jeunes gens, des individus bien éduqués et d'autres qui ne le sont pas. Mais parce que nous avons tous en commun le même amour pour Jésus-Christ, nous pouvons vivre en paix les uns avec les autres. Une telle unité n'est pas toujours facile à maintenir et des conflits peuvent menacer la qualité de nos relations fraternelles. Cependant, parce que nous sommes appelés à promouvoir la paix, nous devons chercher à résoudre ces conflits et encourager au pardon et à la réconciliation.
Vous venez de parler de l'Église en tant qu'œuvre de paix, mais quel devrait être le rôle du chrétien dans le monde qui l'entoure?
Le chrétien en tant qu'individu et l'Église en tant qu'institution peuvent jouer chacun à leur niveau un rôle de bâtisseur de paix dans un monde en proie au conflit. Toutefois, je voudrais ajouter que pour jouer ce rôle, l'Église doit elle-même représenter un modèle de paix. En effet, comment les Églises peuvent-elles encourager la paix si en leur propre sein des conflits ouverts existent et ne sont pas réglés de façon biblique?
Merci pour cette précision importante. Pouvons-nous à présent bien définir le rôle du bâtisseur de paix?
Un bâtisseur de paix est une personne qui œuvre pour rétablir la paix là où un conflit sévit, là où une rupture de relation persiste. Le mot « bâtisseur » représente l'image de celui qui désire rétablir la paix. Or, bâtir implique souvent un processus difficile et pénible. Imaginons une maison qui a été fortement endommagée par des inondations ou un tremblement de terre. Les travaux qui consisteront à reconstruire cette maison seront longs et ardus. Mais ils en vaudront la peine, car lorsqu'ils seront achevés, une belle habitation toute neuve pourra être admirée. Il en est de même pour celui qui encourage la paix et la réconciliation. Devant lui, un très bel objectif se dresse, et le chemin pour y parvenir va être rude et parsemé d'obstacles.
Pourquoi cela est-il le cas?
Parce que les situations de conflit engendrent des émotions négatives et destructrices. Lorsqu'une personne fait du mal à une autre, ou lorsqu'une communauté se sent lésée par les actions injustes d'un autre groupe de personnes, il est dans la nature humaine de s'enflammer de colère et de désirer la vengeance. Évidemment, dans la mesure où l'on réagit en rendant le mal par le mal, de nouveaux problèmes se créent. Le conflit se détériore et il s'installe un cercle vicieux de méfiance, d'actions malveillantes, voire de violence.
Dans de telles situations, l'enseignement biblique sur la paix et la réconciliation semble aller à l'encontre de la nature humaine.
En effet, Yann, c'est pourquoi le bâtisseur de paix doit tout d'abord convaincre toutes les parties concernées que les fruits apportés par la paix et les bonnes relations sont préférables pour tout le monde plutôt que de s'enliser dans des conflits qui persistent.
Je pense que toute personne sensée est capable de comprendre que la paix est préférable au conflit. Mais comment se fait-il alors qu'il soit si difficile de parvenir à la paix et de la maintenir?
Parce que les parties impliquées dans les désaccords doivent accomplir des démarches difficiles à entreprendre. Par exemple, celui qui a fait du tort à un autre doit le reconnaître et renoncer à le répéter. Or, il est difficile d'avouer ses fautes, difficile de les reconnaître. De plus, celui qui a été offensé doit renoncer à la vengeance et être disposé à pardonner. Ensuite, s'il existe un problème de fond à l'origine du conflit, une solution est à trouver pour le régler convenablement. Il faut que les parties impliquées soient prêtes à négocier, prêtes aussi à donner, prêtes à renoncer à certains intérêts en vue de promouvoir la paix et le bien commun. La vraie réconciliation ne consiste pas à prétendre qu'il n'y a jamais eu de blessure. Elle consiste à vouloir renoncer à un conflit. La vraie réconciliation consiste à trouver des solutions justes aux problèmes qui séparent les gens. Elle consiste à faire preuve d'une volonté sincère pour promouvoir le pardon et la repentance. Elle consiste en un engagement authentique pour œuvrer afin de reconstruire des relations sur les bonnes bases du respect et de l'amour réciproque.
Merci Robert de nous avoir aidé à mieux comprendre ce que signifie être un bâtisseur de paix et d'avoir défini ses objectifs. Mais Robert, il est possible que nos amis auditeurs s'interrogent sur la façon dont ils pourraient devenir des bâtisseurs de paix, car la plupart de nos amis ne sont pas des personnes de grande influence.
Il est vrai que lorsque nous pensons aux bâtisseurs de paix, l'image des diplomates allant et venant sur la scène internationale nous vient à l'esprit. Toutefois, je voudrais insister sur le fait que le chrétien peut devenir un bâtisseur de paix à un niveau moins élevé, mais tout aussi utile. Des conflits peuvent surgir au sein des familles, par exemple, entre mari et femme, ou entre enfants et parents. Si un chrétien est alors invité dans de telles situations à offrir son aide et à apporter ses conseils, il pourra agir en médiateur et œuvrer ainsi pour une réconciliation solide. De même, des conflits peuvent surgir entre amis ou voisins, et le chrétien peut ouvrir une perspective différente, encourageant la paix, le pardon et la réconciliation. Parfois, dans certains villages ou quartiers, des conflits peuvent naître entre divers groupes représentant des intérêts divergents. Les ressources naturelles limitées, telles que l'eau ou le bois, peuvent en être à l'origine. D'autres conflits naissent aussi à cause de problèmes tribaux ou religieux. Les églises peuvent intervenir dans ces situations dans l'espoir d'arrêter tout cercle vicieux de vengeance ou de violence et de rétablir la paix sur la base de solutions justes et appropriées.
Merci Robert pour ces exemples. Nous espérons que vos enseignements clairs auront encouragé nos amis auditeurs à devenir de véritables bâtisseurs de paix, chacun dans son propre contexte.
Merci Robert pour vos enseignements clairs et instructifs sur ce thème si important. Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique dont le sujet porte sur le fruit de l'esprit.
Nous nous pencherons plus exactement sur quelques paroles bien connues, écrites par l'apôtre Paul dans sa lettre à l'église de Galates, chapitre 5, versets 22 et 23.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième qualité mentionnée par Paul. Il s'agit de la joie. Et je cède tout de suite la parole à Étienne.
Merci Yann pour cette introduction Et bonjour à tous. Nous avons vu la dernière fois que Jésus puisait sa joie dans sa relation avec Dieu, son Père. Jésus était heureux à la pensée de réaliser à travers sa vie et sa mort les desseins de Dieu. Cette joie inébranlable demeurait en lui en toutes circonstances. Elle aidait à endurer les épreuves et les injustices. Or, c'est cette joie-là que le Saint-Esprit désire produire dans nos vies. Nous devons nous réjouir de la grâce de Dieu, nous réjouir de son amour à l'œuvre dans nos vies. Les bénédictions spirituelles et éternelles, devenues vivantes grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, doivent être notre source de joie principale, une joie intarissable, une joie inébranlable. Notre parcours terrestre peut être parsemé de sujets de réjouissance, la réussite à des examens, un mariage, des naissances, des fêtes et ainsi de suite. Toutefois, la joie apportée par de tels événements disparaîtra tôt ou tard. Par contre, la joie qui provient de l'Esprit est plus forte et constante. Les vérités divines et la faveur de Dieu ne changent pas. C'est pour cette raison que nous pouvons nous réjouir en toutes circonstances. Il est vrai que les épreuves de la vie peuvent ternir notre joie, mais si nous laissons l'Esprit diriger nos pensées, il les orientera vers la plénitude de la grâce de Dieu, vers la beauté de son salut et de sa présence. Ainsi, quand tout autour de nous semble difficile, nous pouvons tourner nos regards vers Dieu et trouver en lui notre sujet de joie. Dieu, par son Esprit, renouvellera nos forces, notre joie, une joie sans pareille, qui nous aidera à faire face à la réalité de la vie quotidienne et à la dureté des épreuves. Alors qu'il se trouvait en prison, privé de liberté, dans des conditions éprouvantes, Paul a pu écrire « Réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous ».
Merci Étienne. Ces paroles me font penser à des amis qui vivent en Haïti. Vers le début de l'année 2010, leur pays fut en proie à un terrible tremblement de terre. Peu de temps après cette catastrophe naturelle, je me suis entretenue avec quelques chrétiens qui avaient survécu à cette tragédie. Et ce qui m'a alors le plus impressionnée, malgré leur contexte tragique, c'était la force de leur foi et leur joie. Ils avaient tout perdu, maison et biens. Ils vivaient et dormaient dans les rues. Ils étaient confrontés à tant de difficultés et d'incertitudes. Et pourtant, ils se réjouissaient dans le Seigneur. Ils n'avaient pas perdu de vue l'essentiel, le plus important. Dieu qui est amour, demeurait avec eux. Il était la source de leur joie, une joie sans pareille.
Merci Hélène pour cet exemple émouvant qui nous montre toute la réalité de l'œuvre de l'Esprit. Il fait naître en nous la joie, juste bon là où nul ne s'attendait à le découvrir. Sur ce, nous devons terminer notre émission. Mais notre série sur le fruit de l'Esprit se poursuivra la prochaine fois. Et Étienne abordera comme prochain fruit celui de la paix. Alors je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.